France Inter. Leur philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Talaï Ravou à la console. Il est une figure majeure de la sociologie, son œuvre est traduite dans le monde entier, nombre d'ouvrages lui sont consacrés, des rééditions et des inédits voient le jour. Pierre Bourdieu est celui qui suscite notre curiosité. Pierre Bourdieu, philosophe avant que d'être sociologue, mais ça, on le sait moins. Pour en parler, Victor Collard et Daniel Adjerad.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Quand nous mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors, je suis tombé sur un magazine qui s'appelle Catalogue des ressources. Alors, c'est un truc en trois volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Goûts bourgeois anciens qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon, hein. Il y a des renversements constants. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est un non nié, quand c'est une double négation. La deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la deux chevaux de l'ouvrier agricole. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient.
Les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient, disait Pierre Bourdieu, apostrophe d'un sujet philosophique à part entière. Pierre Bourdieu, jeunesse d'un philosophe, c'est le titre de l'essai que vous publiez, Victor Collard, qui est sorti chez CNRS Éditions. Daniel Adjerad, vous publiez quant à vous une enquête philosophique, La question de l'économie, chez Pierre Bourdieu, publié aux presses universitaires du Septentrion. Victor Collard, vous vous êtes penché sur le jeune Bourdieu, qui est né, je le rappelle, en 1930, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est monté à Paris pour y suivre des études de philosophie et qui est devenu ensuite le grand sociologue que l'on connaît. Diriez-vous qu'il y a chez Bourdieu un glissement de la philosophie à la sociologie ? Avant même d'ailleurs d'être sociologue, il a été ethnologue. Est-ce qu'on peut parler d'une opportunité, voire même d'une conversion ?
Merci pour l'invitation tout d'abord. Oui, alors c'est une grande question de ce livre, effectivement. Vous avez dit d'ailleurs jeunesse d'un philosophe. C'est un lapsus intéressant, jeunesse d'un sociologue.
D'un sociologue. J'ai dit jeunesse d'un philosophe.
Mais c'est drôle parce que effectivement tout l'intérêt du parcours de Bourdieu, c'est cette indistinction presque entre philosophie et sociologie. Donc on aurait pu aussi écrire jeunesse d'un philosophe. Beaucoup auraient signé pour ça. Donc c'est vrai que tout son parcours, il est formé à la philosophie, dans les classes préparatoires du lycée Louis-le-Grand. Ensuite, on y reviendra peut-être à l'école normale supérieure.
Bien sûr qu'on y reviendra.
Voilà, il va connaître cette rupture majeure, pour des raisons peut-être sur lesquelles on reviendra aussi, qui convoque la guerre d'Algérie et tous ses tourments. Et donc c'est un parcours disciplinairement très troublé et du coup très intéressant pour une recherche sociologique.
Mais on ne le connaît pas forcément, ce moment-là de sa vie, parce que lui en a assez peu parlé et qu'il n'y a pas eu, il y a eu une autobiographie, non, justement, enfin, c'est paru après sa mort, là aussi on y reviendra, mais il y a eu une biographie de Bourdieu. Mais là, vous avez vraiment voulu insister sur le noyau dur de sa personnalité.
Oui, c'est ça. J'ai essayé, effectivement, c'est une forme de biographie sociologique, c'est-à-dire une forme de biographie au sens où un biographe qui voudrait faire une nouvelle biographie, puisqu'il y en a déjà une de Marie-Anne Lescouret, mais qui a été faite sans archives, donc... Ça, voilà, de ce point de vue-là, c'était un manque. Je pense que quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la vie de Bourdieu serait obligé de passer par un certain nombre de points que j'ai essayé de présenter. Mais comme vous le dites, moi, je me suis inscrit sur un point particulier. Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur Bourdieu. Moi, c'est vraiment cette question de la conversion, presque au sens effectivement religieux. Comment est-ce que quelqu'un, c'est un peu l'énigme de mon travail, comment est-ce que quelqu'un qui pourtant ne venait pas d'un milieu favorisé et qui aurait pu se dire « c'est la consécration », comme mon collègue qui est diplômé aussi en philosophie, agrégé de philosophie, voilà, il commence une thèse en philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'il a pu vouloir descendre, parce qu'il le dit vraiment, il dit « si on m'avait dit un jour que je deviendrais sociologue, j'aurais mieux aimé mourir », il a ce genre de phrase.
Incroyable.
Donc effectivement, qu'est-ce qui explique, ça c'est tout l'enjeu sociologique, de se dire soit c'est une forme de masochisme académique, ce qui apparaît quand même pas très convaincant, soit il y a des raisons très précises, au confluent de choses qui se passent dans le champ des sciences sociales à l'époque, donc des choses très macro, et des choses beaucoup plus micro, qui proviennent vraiment de sa biographie, où là il a fallu bien creuser.
Daniel Adjirad, je dois dire que le mot de conversion m'a été largement inspirée à la lecture de votre essai, puisque vous vous dites que les rapports de Bourdieu à la philo, c'est une démarcation, une conversion et un renversement.
Je pense que le premier geste de Bourdieu, quand il rentre en sociologie, c'est de se démarquer parce qu'il essaye d'analyser ce qui fait la spécificité de la pratique. Et pour lui, en fait, l'attitude du philosophe, c'est une attitude qui est trop à distance. Il appelle ça une position scolastique. Et c'est intéressant d'utiliser cette expression, d'ailleurs, parce que position scolastique, ça veut dire trop dans le loisir, dans la contemplation, à l'écart de l'urgence de la pratique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette expression, il la subtilise et il la chaparde à un philosophe. Parce que c'est une expression qui est utilisée par Austin. Donc, il se démarque de la philosophie tout en utilisant la philosophie, quoi. C'est-à-dire qu'il s'empare des armes de l'adversaire un peu pour les retourner contre lui. Parce que je pense que quand même, il y a une ambition de Bourdieu de s'inspirer des sciences sociales pour renouveler aussi la philosophie.
Mais on peut pas dire que ça a été de la même manière qu'on parle de transfuge de classe. Et d'une certaine manière, il l'a été. On peut pas dire que c'est un transfuge. Ce qui est d'ailleurs pas très gentil comme terme, parce que le sens premier du transfuge, c'est le soldat qui déserte et qui passe à l'ennemi. Donc c'est pas comme ça qu'il faut voir cette conversion, ce glissement.
Non, car comme mon collègue ici présent l'a bien montré...
Vous avez le droit de vous tutoyer si vous vous parlez directement.
On partage le même directeur de thèse. Donc.
D'accord, ça crée des liens.
Dans ta thèse, t'as bien montré qu'il reste en contact très, très prononcé durant toute sa vie avec un certain nombre de philosophes. Moi, il y a une relation qui m'intéresse particulièrement, c'est la relation de Bourdieu à Derrida. À Jacques Derrida, parce qu'ils se connaissent depuis les classes préparatoires. Je pense qu'il y a une sorte de dialogue un peu souterrain et secret entre les deux. Là, on entendait un extrait sur les goûts, le grand livre de Bourdieu, La distinction sur la critique du goût, qui est une refonte sociologique d'un livre de Kant. Critique de la faculté de juger, c'est critique du goût, donc il refait Kant. Et je pense que d'ailleurs, il le dit explicitement à la fin, dans un post-scriptum, à la fin du livre Bourdieu, il discute Kant et la lecture que Derrida propose de Kant. Et je pense qu'il y a tout un dialogue un peu sous-jacent entre les deux qui se continue, même quand Bourdieu est sociologue. Je m'étais amusé à regarder, je crois qu'en 1975, Derrida écrit un texte qui s'appelle « Economimesis », dans lequel il y a déjà cette idée-là, cette punchline un peu de Bourdieu, que le goût des uns, c'est un peu le dégoût des autres. Que pour comprendre le goût, il faut partir du dégoût.
Vous ne croyez pas si bien dire.
On peut tuer pour des goûts. Enfin, bon, je pense qu'il y a une forme de racisme, ce que j'appelle le racisme de classe ou le racisme de l'intelligence, enfin, bon, qui est d'une violence extrême, dans la mesure où les goûts sont, comme on dit, viscéraux. Enfin, et les goûts, c'est notre position dans les classements, devenu corps, devenu mot, devenu nous-mêmes. Bon, et ces goûts sont évidemment des dégoûts. Et il n'y a rien de pire que cette forme de dégoût des autres, enfin, qui est un dégoût, déclassement des autres, de leurs attitudes, de leurs pratiques, etc. Bon. Et je pense donc que nous sommes aujourd'hui dans une société qui se reproduit en grande partie par l'intermédiaire du système scolaire, pas seulement évidemment, bon, où les dominants se sentent légitimés dans leur domination, dans leur intelligence, enfin, bon, c'est-à-dire dans leur être, dans leur nature, et du coup le racisme de l'intelligence, je pense, devient une des formes les plus vicieuses, enfin, du racisme.
Encore faut-il redéfinir ce mot de racisme, puisqu'il ne s'agit plus de race, mais de groupe,
oui, peut-être. Oui, enfin, bon, je pense, si vous voulez, qu'il y a racisme, enfin, dès le moment où on enferme les gens dans une nature, dans une
histoire.
Oui, plus que ça, enfin, où on condamne, on enferme, on persécute, enfin, des gens au nom de choses qui sont imputées à leur nature, bon, alors qu'en autre chose, par exemple, elles peuvent être le produit de la culture.
Ce qui est frappant, Victor Collard, c'est qu'il a quand même des propos qui pourraient être tenus par un philosophe, au fond.
Oui, alors effectivement, ça tient à l'ambiguïté de sa formation. Comme le disait Daniel, c'est quelqu'un qui, j'essaie de le montrer dans le livre, n'arrive pas à se départir totalement de sa formation. En fait,
mais c'est pas un défaut.
C'est pas un défaut, d'ailleurs, et je pense que lui... Alors, dans une première partie, au moment où il quitte effectivement la philosophie, au début des années 60... en Algérie, il fait ses travaux empiriques. Là, on sent qu'il cite très très peu les philosophes. Il y a une espèce de conversion, il le dit d'ailleurs plus tard, c'est ma conversion scientiste, et il dit « j'étais dans les défauts de celui qui veut montrer qu'il est sociologue, qui fait de l'empirie ». Et donc là, on voit que les notes de bas de page, les jeux de mots, effectivement toutes les ficelles de sa formation philosophique, il dit clairement, enfin, a posteriori, j'ai essayé de les éviter à ce moment-là. Et on sent ensuite qu'il y revient. Et ça, c'est sans doute... lié à tout un tas de choses que j'essaye de montrer dans l'ouvrage, le rapport à ses anciens camarades. C'est vrai que quand on passe d'une discipline à une autre, on garde malgré tout ses camarades de formation qui continuent. Derrida, tu le disais, Daniel, lui envoie ses ouvrages, il les commente. Il y a une correspondance là-dessus qui est assez intéressante. Donc voilà, on est toujours un peu dépendant de son milieu social. C'est au fond le discours de la sociologie, de son milieu de formation, y compris de sa discipline de formation. Et on ne peut pas totalement s'en sortir.
Mais sur la discipline de formation, comme vous venez de le dire, Victor Collard, il a quand même suivi des cours de gens absolument prestigieux. Il est allé, bon, on va revenir sur des éléments biographiques, mais il a toujours gardé un certain recul. Il trouvait même qu'il y avait trop de conformisme scolaire. Ça,
oui,
vous le dites.
Tout à fait. C'est toujours pareil. On peut se dire, il se donne un peu un rôle ou des attitudes de rebelle a posteriori, mais on a un certain nombre d'éléments dans des correspondances d'époque où on sent que Bourdieu n'arrive pas à jouer totalement le jeu scolaire. Effectivement.
Pourtant, ça a, lui-même, il a été prof après, et ça a été un très bon pédagogue.
Exactement. Et je pense qu'il a sans doute dû se baser sur son ressenti d'élève. Souvent, on est enseignant aussi, on essaye peut-être de se souvenir un peu des élèves qu'on a été, de l'éventuel ennui qu'on a pu ressentir, et essayer d'injecter ça dans notre pratique de l'enseignement. Donc lui a sans doute ressenti ça, beaucoup d'ennui. Il dit qu'à un moment, l'histoire, par exemple, à l'ENS, c'était catastrophique. Il a voulu aller à Sciences Po, il dit, mais c'était encore pire. Donc il a fait des tests, il était très rebelle, il a manqué de se faire virer de lycée Louis Barthou de Pau plusieurs fois, donc il y a un rapport très ambivalent qui ne correspond pas d'ailleurs à ce qu'est le rapport d'autres qui au contraire voyaient dans le salut par l'école vraiment une occasion inespérée de s'en sortir.
Est-ce qu'il a eu un coup de cœur véritable, là je pose la question 2, pour un philosophe?
Bah, je sais que toi, Victor, dans ta thèse, tu avais essayé de montrer s'il y avait une affinité particulière entre Spinoza et puis Bourdieu. Et je crois que tu étais arrivé à l'idée que pas plus qu'un autre, finalement. Alors, à mes yeux, est-ce qu'il y aurait une affinité particulière avec un philosophe? Il y a des effets superficiels. On pourrait dire, par exemple, que Pascal est important, puisqu'il intitule un de ses livres « Méditation pascalienne ». Mais... quand on y regarde bien, comme tu le dis d'ailleurs dans ta thèse, on aurait pu appeler ça autrement, méditation peut-être spinoziste ou leibnizienne.
Leibniz justement, vous dites qu'il y a une perspective leibnizienne dans sa façon de penser, d'aborder la sociologie.
Ouais, Victor montre bien dans son travail que Bourdieu, son seul travail universitaire de philosophie, finalement, c'est un travail sur Leibniz.
Mais ça veut dire quoi, la perspective leibnizienne, ça signifie quoi?
Je dirais que...
Nous, on n'est pas agrégés, hein. ni en sociologie, ni en philosophie.
Je dirais que Bourdieu utilise donc les armes de la philosophie, à savoir des concepts qui sont peut-être un petit peu abstraits, pour les faire fonctionner comme des opérateurs. Alors, deux exemples, le concept de point de vue et le concept de petite différence. Donc Bourdieu s'intéresse beaucoup à la question du point de vue des individus, comment notre point de vue se constitue à partir du monde social. Pourquoi, par exemple, j'aime les brocolis, le gorgonzola, quels sont mes goûts, etc. Et en quoi c'est déterminé par des conditions sociales. Et il va jusque dans les petites différences. Ça, c'est vraiment un concept de Leibniz, les petites perceptions. Je pense que c'est ça aussi qui l'a amené à se convertir à la sociologie. Essayer d'analyser en Algérie les petites différences du quotidien. Le titre de son livre, hein, dont on parlait tout à l'heure, c'est « La distinction ». Jeu de mots philosophique, peut-être un clin d'œil à Derrida, puisque la distinction, c'est se distinguer avec prestige, mais aussi faire des différences. Je pense qu'il y a plein de clins d'œil à Derrida dans ce livre. Il écrit sa remarque sur Kant dans une marge, comme s'il était en train de dire à Derrida, là au moins tu vas aller le lire, parce que Derrida, c'est le philosophe qui est toujours en train de regarder les choses qui sont dans les marges, qui ne sont pas les plus importantes, pas au centre d'un texte.
Pour faire des clins d'œil, il faut avoir un peu d'humour, c'est ce qu'il avait.
Oui, il avait, je pense, beaucoup d'humour. Alors nous, on l'a pas connu, on l'a pas fréquenté dans le secret de ses séminaires avec ses étudiants fétiches. Mais c'est quelqu'un, oui, qui avait de l'humour et sans doute ça lui permettait d'avoir une certaine distance. Et dans les entretiens, je trouve que l'une des choses qu'on retient effectivement, c'est une sorte de rire, comme il disait, un peu salvateur et qui fait du bien parce qu'il permet de prendre de la distance.
Suite du feuilleton Bourdieu, tout de suite après le disque, nous allons parler donc des années que Pierre Bourdieu a passées en Algérie. Vous l'avez déjà un peu évoqué, années déterminantes. Victor Collard et Daniel Adjerad, vous êtes nos invités. Pierre Bourdieu, jeunesse d'un sociologue, c'est le titre, et là je le dis bien, de votre essai, Victor Collard. Et Daniel Adjerad, vous êtes l'auteur de La question de l'économie chez Pierre Bourdieu. Il s'agit d'une enquête philosophique.
Des choses ici, j'aime mieux rester au lit. Y a quelque chose de pourri. Passe-moi un verre de whisky. Des confettis, de la cervelle et des radis. La vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Je crois que le voisin radio, je te prie, je veux pas savoir ce qu'il dit. Il se passe des choses ici. Connais-tu les pissenlits? Tu les verras vendredi dans un plan très inédit. Passe-moi un verre de whisky. On se moque de nous ici. Y a quelque chose de pourri. Dieu est un grand mal poli. Je lui confierai pas mon petit. Dans la chambre, c'est la nuit. Je la connais, c'est une amie. Passe-moi un verre de
délicieuse Brigitte Fontaine. Il se passe des choses. Pierre Bourdieu, fils unique, des parents aimants et admiratifs. Il n'est pas comme un poisson dans l'eau dans la langue française. Pourquoi, Victor Collard, d'ailleurs ?
Oui, autant sa mère lui parle français, autant effectivement son père lui parle, il dit ça plus tard, dans un mélange de gascon, d'espagnol et de français, une espèce de patchwork. Donc jusqu'à 7-8 ans, voilà, il dit « j'étais vraiment pas très à l'aise en français ».
Ensuite, il passe le certificat d'études primaires. À Pau, il va au lycée Louis Barthou. Il est repéré. Il y a un peu ce rapport d'ailleurs comme Camus avec son instituteur. Hein. Il est repéré par le proviseur du lycée, Bernard Lamy, auquel il a plusieurs fois rendu hommage, puis il passe le concours général de version latine, il monte à Paris, ça on l'a dit, en 1948, lycée prestigieux, Louis le Grand, il pocagne, il fait deux cagnes, normal sup, et la rupture, et ça c'est, on n'a pas le temps de parler de tout, mais la rupture importante dans sa vie, c'est quand il fait son service militaire.
Oui. Alors, il est agrégé de philosophie en 54, et au début de sa deuxième année d'enseignement, en 55, il a été sursitaire, donc il avait eu un sursis pendant ses études, mais là, il faut y aller, il faut qu'il fasse son service militaire, et donc il va faire ses classes en France, on est en métropole à l'époque, et il est envoyé sur le terrain algérien. Donc là, c'est très, très violent pour lui. Alors, il n'est pas sur le champ de bataille, mais en tout cas, il est plutôt puni parce qu'il avait des visions, des visées un peu pacifistes. Donc, il écrit dans une lettre d'époque, ce qui atteste un peu la chose à ses parents. Voilà, on m'a envoyé sur le terrain parce que mes opinions antimilitaristes, etc., sont pas très bien passées, ce qu'on peut comprendre du point de vue d'institution militaire. Et donc, il est envoyé en Algérie. Et là, il va être un peu sauvé par un colonel, d'ailleurs, qui est pas un tendre, le colonel Paul Ducournau, qui est directeur du cabinet militaire de Robert Lacoste, donc le ministre résident en Algérie à l'époque, et qui va le prendre sous son aile dans un service qui est un peu particulier, qui est le service d'information du gouvernement général à Alger, qui est en fait, il faut le dire, le service de propagande. Et c'est dans ce cadre, paradoxalement, qu'il va s'intéresser à la sociologie des habitants de l'Algérie. Et c'est dans ce cadre, ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est que au sein du service de la propagande, parce que ses missions sont de produire de la connaissance, c'est sans doute là qu'il va, pour la première fois, s'intéresser vraiment à la sociologie.
On lui a fait beaucoup de reproches au sujet de ses prises de position. Parce qu'il faut dire quand même que l'Algérie était plus que bousculée à ce moment-là, Daniel Al-Jarad.
D'ailleurs, au bout d'un moment, en fait, il va devoir partir de l'Algérie parce qu'entre le moment du service et puis le moment où il revient en France...
Parce qu'il a décidé d'y rester après le service.
Hein. Exactement. Il enseigne à l'université, finalement.
À Alger.
À Alger.
Et il enseigne la philo et la sociologie.
Oui,
il enseigne les deux matières.
Mais comme tu le montres bien dans ton livre, il parle beaucoup de sociologie déjà. Mais il fait aussi la rencontre de gens qui seront amenés à recroiser son existence, même d'un point de vue scientifique et philosophique, comme par exemple Alexandre Matron, qui est un grand spécialiste de Spinoza, que Bourdieu va ensuite éditer dans sa collection aux éditions de Minuit. Donc il y a quand même des liens encore avec la philosophie qui se font à ce moment-là.
Et il écrit à ce moment-là, à partir de quel moment il écrit dans un que sais-je, je crois, a écrit un livre sur l'Algérie.
Oui, tout à fait. Donc c'est en 58, donc c'est la classe, première publication de sa vie à seulement 28 ans. Il publie un que sais-je, Sociologie de l'Algérie, dont le titre est d'ailleurs assez subversif pour l'époque, et pas Ethnologie de l'Algérie. Donc Sociologie de l'Algérie, c'est déjà un choix scientifique assez fort, qui montre quand même que son intermède au service d'information ne reflétait pas le sentiment qu'il avait vis-à-vis de l'Algérie. Et après Sociologie de l'Algérie, en fait, qui est un livre assez théorique. Donc là, malgré le nom, il n'y a pas d'enquête empirique encore. C'est seulement 2 ans plus tard qu'il va lancer les premières vraies enquêtes empiriques en mobilisant des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Alger, comme tu disais, Daniel. Et à partir de ce moment-là, on imagine le bouleversement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été formé à la philosophie. Il a eu un certain nombre de cours de sociologie. J'essaie de montrer un peu...
La sociologie qui est quand même, il faut le rappeler, une discipline pas balbutiante, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, qui n'est pas la clé de voûte qu'était la philosophie.
Tout à fait. Et c'est vrai que la position de la sociologie dans le champ scientifique de l'époque et académique est très, très faible. En fait, les philosophes étaient forcés de s'y intéresser parce que l'un des certificats, en gros 25% du cursus de philosophie, concernait donc ce qu'on appelait le certificat de morale et sociologie, qui donnait une vague introduction à ce qu'étaient les grands auteurs de la sociologie. Mais rien de très, très intéressant pour la pratique empirique.
Daniel Al-Jarad.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, en Algérie, il est inscrit en thèse de philosophie, comme tu le montres bien. Il est en train, alors il dira plus tard qu'il avait abandonné, qu'il ne l'a pas vraiment écrite, etc. Mais tu montres bien qu'il avait quand même déjà commencé à écrire. Il est en thèse avec Canguilhem.
Ouais.
Canguilhem, ses rapports avec Canguilhem, ça c'est encore une autre histoire.
Mmh. Avec une thèse...
Je t'aime, je t'aime plus. Et je t'aime encore.
Une thèse d'inspiration phénoménologique. Enfin, le titre, c'est « Les structures temporelles de la vie affective ». Donc il s'intéresse, pour le dire un peu concrètement, aux... à ce qui détermine dans notre organisme nos réactions émotionnelles. Mmh. Ouais. Et puis, en lien avec la notion de temps, de temporalité.
Ouais.
Puis, il va abandonner cette thèse. Tu montres bien, d'ailleurs, Victor, dans ton ouvrage, que quand il rentre en France, il essaye un peu de se raccrocher. Et il va essayer de basculer sur une thèse avec Aron, je crois. Aron, qui est encore une figure de passage entre philosophie et sociologie.
Mais qui sera aussi très important dans sa vie.
Oui, ouais. Agrégé de philosophie, major, je crois.
Major, oui.
Et puis, qui est la figure dominante du champ en sociologie à cette époque.
Ouais. Mais sur la sociologie, je voudrais juste reprendre un terme que vous donnez, Daniel Adjerad, dans votre ouvrage. Je me souviens être resté de longues heures, donc c'est Bourdieu qui parle, de longues heures à harceler de questions un paysan kabyle qui essayait de m'expliquer une forme traditionnelle de prêt de bétail.
Oui. Alors, moi, ça m'a particulièrement intéressé, ce genre de questions. Déjà, je suis d'origine kabyle. Et puis, deuxièmement, il y avait cette notion de don, contre-don, de conception économique qui a complètement stupéfait Bourdieu, parce qu'il avait l'impression qu'un certain nombre de catégories économiques traditionnelles qu'on utilisait dans la discipline académique étaient mises sans dessus-dessous. Et il essayait de comprendre comment, quand je prête du bétail... je vais me sentir, comment finalement celui qui est en dette, c'est celui qui a prêté et pas l'autre. Comment il y a une sorte d'inversion, en fait, des catégories traditionnelles. Je pense que là, il y a peut-être un des déterminants, ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, de son utilisation un peu renouvelée de tout ce vocabulaire de l'économie.
Et ce glissement aussi de mots d'économie qu'il prend à son compte en sociologie.
Bien sûr. En fait, Bourdieu utilise des mots économiques en leur donnant un nouveau sens sans forcément définir de manière très claire quel est ce sens. Par exemple, si je prends cette situation, là nous sommes en train d'échanger, voilà, en termes d'économie, en fonction des connaissances de l'auditeur, il a un certain capital, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'investir, vous voyez encore un mot d'économie, plus ou moins, éprouver de l'intérêt... profiter de la... Et donc, tous ces mots-là, en fait, ils sont utilisés par Bourdieu. Et beaucoup de gens ont dit, bon, il fait des métaphores. J'aurais envie de dire, comme un Bernard Lhermitte, il prend une coquille, il a abandonné des mots d'économie, puis il se met dedans. Et... Moi, je pense qu'en fait, il fait plus que ça. C'est-à-dire qu'il s'empare d'un vocabulaire comme les armes de l'adversaire et qu'il essaye de le refondre et de recréer ce vocabulaire.
Et de les faire sien.
Et de les faire sien.
Je pense que beaucoup de sociologues, d'ailleurs, contribuent à cette idée qui est une idée du sens commun, oui. À savoir que les masses médias, la radio, la télévision, etc., les groupes des pairs, les camarades, etc., deviennent l'influence principale dans la constitution de la personnalité, le mode de transmission, etc. Bon, je pense que c'est une illusion. Toutes les enquêtes montrent, par le simple fait de la corrélation entre la réussite sociale et scolaire et l'origine sociale, que la famille reste... une instance de transmission capitale. Enfin bon, c'est par l'intermédiaire de la famille que se transmet l'essentiel, pour une raison simple, entre autres choses, par le simple fait que la famille a la priorité. Bon, c'est la famille qui commence. Bon. Et c'est-à-dire que c'est elle qui fournit les dispositions, les lunettes, à travers lesquelles vont être perçues toutes les influences ultérieures. Autrement dit, cette espèce d'irréversibilité de l'itinéraire biographique qui fait qu'on commence, comme disait Descartes, à être enfant avant d'être homme, bon, fait que ce qu'on a acquis au début, et ce à travers quoi on va acquérir tout ce qu'on acquérera par la suite. Donc, les influences primaires, celles qu'exerce la famille, sont le principe de l'effet de toutes les autres influences.
Alors c'est vrai pour tout le monde, mais pour lui particulièrement, puisque c'est lui qui nous intéresse, il a eu une famille aimante, hein, nous l'avons dit. Et Denis Podalydès, qui consacre également un livre à Bourdieu, il a été, il est ami, je crois, du fils cadet de Bourdieu, qui a eu trois fils, dit de ce foyer dans lequel il allait, donc il a eu la chance de voir Bourdieu dans sa cuisine, que c'était un foyer lumineux et que lui, Bourdieu, était bienveillant, moqueur et chaleureux à la fois.
Oui, je trouve très touchant l'ouvrage qu'a publié Denis Podalydès récemment et que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et c'est intéressant parce que sa position, bien sûr, n'est pas celle d'un universitaire qui fait des archives, mais il arrive justement à trouver des choses complémentaires et un vécu que nous, malheureusement, nous n'avons pas, une intimité avec Bourdieu, malheureusement.
C'est le défaut de la jeunesse, c'est qu'on n'a pas pu le connaître tout
ouais,
le monde.
Ouais, c'est ça. Je pense que dans l'extrait, d'ailleurs, l'extrait est intéressant. C'est vrai que bon, Bourdieu a cette faculté, en quelques phrases, de parler d'énormément de choses. Il part des médias, ensuite de la famille, des amis. Bon, tout ça, c'est des instances de socialisation qui sont fortes. Je pense que les médias ont une influence, évidemment, sur tout un tas de catégories qu'on peut se former en tant que citoyen. La famille, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est vrai que Bourdieu lui donne une priorité. C'est pas mal débattu en sociologie, d'ailleurs, le fait de dire est-ce que la famille n'est pas très vite remplacée par les amis comme instance de socialisation. Est-ce que le rapport qu'on a à nos amis, l'envie de copier tout un tas de monde, est-ce que c'est pas plus important dans la construction d'une personne? Mais c'est vrai que la famille, c'est évidemment les relations qu'on a avec eux, tout le capital culturel, tu le montres dans ton ouvrage, bien sûr, Daniel, tout ce jeu sur le capital qui n'est plus seulement économique. Bourdieu s'est amusé à dire qu'il y a tout un tas de types de capitaux, il y a aussi le capital culturel, symbolique, social, etc. Donc la famille est sans doute une instance très importante de ce point de vue, mais il y a aussi tout ce qui va avec la famille, c'est-à-dire le capital économique qu'on a aussi. Suivant sa famille, on a accès à des logements qui sont pas les mêmes, à des cours particuliers, etc. Donc tout ça,
en
ça
même temps,
construit
lui, alors je sais pas, je pense qu'il a eu il a obtenu des bourses parce que ses études ont dû coûter cher.
Oui.
Et ses parents son père était receveur des postes, hein, donc
oui.
Il n'y avait pas énormément. Et un ancien métayer. Donc c'était pas un foyer très aisé.
Non, tout à fait. Alors, moi, dans l'enquête que j'ai menée, j'essaie de montrer, enfin, d'avoir une réponse un peu mesurée par rapport à ça. C'est-à-dire que Bourdieu, je pense qu'il le fait pas exprès, a tendance à peindre un petit peu en noir son milieu social d'origine. Quand on regarde certains éléments, notamment les dossiers normaliens, où on a accès à des choses assez privées sur les revenus de ses parents qui sont mentionnés, les impôts qu'il paye, etc. On voit quand même que sa mère a hérité d'une maison, donc il peut se loger sans loyer. Il y a tout un tas d'éléments qui laissent à penser que c'est plutôt un milieu classe moyenne inférieure, mais vous avez raison, il fait partie notamment à Louis-le-Grand, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est à peu près 15% des élèves sont boursiers et Bourdieu fait partie des boursiers. Donc autant c'est peut-être pas le milieu le plus défavorisé qui soit, autant pour accéder à Louis-le-Grand notamment, ce prestigieux lycée parisien, là on voit qu'il fait partie quand même d'une petite minorité.
Daniel Adjaran.
Sur la famille, moi je vais le prendre dans l'autre sens, en parlant de ses enfants. Je pense que ses enfants donc, ont été à la fois influencés et puis en retour lui fournissent des informations importantes dans deux champs, dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la philosophie, puisque je crois que tu montres dans ton livre que certains livres de Bourdieu étaient piqués par, étaient subtilisés par un de ses fils.
Oui, oui.
Et que le fils disait non, je l'ai pas volé. Il disait, si. Et puis en fait, il l'avait.
Oui, exactement. Et ça, c'est intéressant. C'est avec l'Emmanuel, justement, qui était ami avec Denis Podalydès, qui a fait un parcours qui est pour le coup une reproduction totale de Bourdieu, en faisant donc Henri IV, les classes préparatoires.
Donc, pas été évident d'être le fils de Bourdieu, hein, quand même.
Non. Mais alors, d'ailleurs, Denis Podalydès le dit, puisqu'il était en prépa avec Emmanuel Bourdieu, et on voit qu'il y a tout un tas de noms d'enfants de ministres, etc. Donc, c'était voilà, il y avait des rencontres de personnages comme ça qui avaient une certaine influence. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans les deux sens. Moi, ce qui m'a intéressé dans le cas d'Emmanuel Bourdieu, que j'ai pas pu interroger malheureusement, mais c'est aussi les relations familiales dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, c'est les parents qui transmettent un capital culturel, et à partir d'un certain moment où qui bénéficient des livres, comme tu le dis effectivement, Emmanuel Bourdieu pique les livres de son père, et son père est fou de rage parce que il a tendance à annoter, à trop surligner. Donc il dit, moi quand je reprends le bouquin, je m'y retrouve plus. Et en même temps, c'est intéressant intéressant à partir d'un certain âge aussi de voir quand Emmanuel Bourdieu fait un mémoire sur Spinoza, moi j'avais fait une thèse sur Bourdieu et Spinoza, donc évidemment ça m'intéressait, de voir à quel point les relations peuvent se faire dans l'autre sens. À partir d'un certain âge et un certain niveau de diplôme, même Bourdieu peut apprendre des choses bien sûr de ses enfants. Donc les relations familiales peuvent à partir d'un certain moment se faire dans les deux sens.
Et qu'est-ce qu'il a appris tout à l'heure? On disait qu'il s'était vraiment penché sur la société algérienne. Qu'est-ce qu'il a appris des Béarnais? Parce que là aussi, il est allé mettre sa loupe d'intellectuel sur un milieu auquel il appartenait peut-être encore, mais qu'il n'a plus fréquenté par la suite.
Oui, alors le
la Seube, c'est ça,
c'est ça. C'est exactement.
Un petit village, c'est ça ?
C'est un petit village qu'il appelle l'Esquire, justement, dans son travail sur le bal des célibataires, par exemple, où il prend ce village en exemple, mais il lui donne un autre nom. Donc ouais. La Seube, c'est le village où il a grandi. Il est né à Danguin, mais il a déménagé à 4-5 ans à la Seube. Il y a fait la plupart de son adolescence, même s'il est parti en internat à Pau après. Et ce qui a été important pour lui, il a fait plusieurs travaux et en fait il les conduit dès la fin des années 50, donc vraiment au moment où il se convertit à la sociologie, c'est totalement concomitant. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est en fait il dit que c'est une forme de triste tropique à l'envers, il a cette formule, donc cette référence à Lévi-Strauss pour dire que justement il est allé, contrairement à Lévi-Strauss qui est allé au Brésil très très loin, lui il est allé au plus près de ce qu'il était, de ce qu'il avait connu, mais pour avoir un effet d'étrangement on pourrait dire, c'est-à-dire en fait, il s'en servait comme point de contrôle. Il disait, quand je faisais mes enquêtes algériennes, il dit, je voyais des personnages que je trouvais très beaux. Il le dit avec un vocabulaire qu'il sait un peu naïf. Il disait, j'étais très impressionné par ces paysans kabyles, etc. Et il dit, en même temps, je pense que je pouvais me faire avoir par cette espèce d'attrait comme ça que j'avais pour eux. Et il dit, donc, je retournais sur mon terrain natal, j'allais interroger des paysans. Et là, je voyais bien la part de rouerie. Il se fichait de moi quand il me répondait. Il répondait en me répondant pas vraiment. Et il dit, ça m'a permis de contrôler, d'avoir de tellement les connaître eux que ça lui permettait de ne pas se faire avoir par les paysans algériens qui se fichaient peut-être autant de lui dans leurs réponses. Donc d'avoir ces deux terrains-là lui permettait de contrôler un peu ce qu'il faisait.
C'est quelqu'un qui a compté, qui compte encore beaucoup aujourd'hui dans la classe intellectuelle algérienne?
Alors, en tout cas...
Daniel Adjerad.
Il a formé des gens dont il faut parler en particulier, par exemple Sayad, qui a été son étudiant, je crois que tu le montres bien, qui est un intellectuel et un sociologue fondamental, qui a travaillé avec Bourdieu, qui a co-écrit avec Bourdieu ses premiers ouvrages. Je crois que tu dis, Victor, dans ton livre, que le sociologie de l'Algérie, à l'époque, il a été... froidement accueilli, non, en Algérie.
Ouais, oui, et effectivement, au début, alors c'est un contexte de guerre où c'est pas évident. Bourdieu s'est même senti menacé. C'est une des raisons pour lesquelles il est reparti en Algérie. Voilà, à la fin des années 50, il dit, j'ai pas retrouvé de trace de ça, mais qu'il aurait été sur liste rouge. Donc les partisans de l'Algérie française commençaient à être sévères et notamment dans la correspondance avec une de ses collègues, Clémence Ramnou, elle dit qu'elle a échappé à un attentat qui la visait pas spécialement, mais à 30 mètres près. Elle prenait une bombe, entre guillemets. Donc, oui, c'était très violent. Sur la réception académique, il y a deux choses. Il y a le climat très violent et il y a aussi les choses qu'on peut comprendre qui sont de dire c'est qui cet agrégé de philo de 28 ans qui nous fait un sociologie de l'Algérie? Il n'y a pas été formé. Bon. Donc, à un moment, il dit à quelqu'un, un de ses interlocuteurs, on me reproche une absence d'expérience prolongée des réalités algériennes. Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir tout à fait.
Il dit à un moment donné, l'analyse des données en sociologie, c'est aussi compliqué qu'un texte de Hegel, je le dis pour les philosophes. J'adore ça.
Oui, alors ça te parlera, Daniel. Il a ces phrases, effectivement, où on sent qu'il essaye de revaloriser. On parlait du côté... La sociologie n'était pas une discipline très valorisée à l'époque. Et lui-même, en tant que temps malin philosophe, a été le premier à dire que son ressenti, c'était vraiment que c'était une discipline vraiment horrible, la sociologie, très empirique, très laborieuse. Et donc, quand il dit ça, c'est vraiment le former à la philosophie qui se dit attention, il faut arrêter de croire que ce qu'on fait en sociologie, c'est simple et les grands textes de Hegel sur lesquels tous les commentateurs se triturent les méninges, ce serait vraiment d'un autre niveau. Finalement, effectivement, il dit je peux mettre 8 jours à écrire un tableau codé, etc. et je peux écrire le post-scriptum dont tu parlais, Daniel, de la distinction en quelques heures.
Alors moi, je confirme, parce que pour compléter mon travail sur Bourdieu et les catégories économiques, j'ai travaillé sur le rap et sur donc une catégorie, la catégorie de punchline, et je me suis, selon les mots de Bourdieu, converti aux servitudes de la recherche empirique, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de compter le nombre de fois où le mot apparaissait dans les paroles des rappeurs, à quel moment, etc. Et effectivement, c'est un travail qui est tout à fait important, compliqué, et pour quelqu'un qui a une formation de philosophe comme moi, oui, je comprends ce que Bourdieu veut dire.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. C'était Duran Jones and the Indications.
Je vais mettre le doigt sur une série de mécanismes qui font que la télévision cache. La télévision cache tout en montrant. Et en un sens, plus elle montre, plus elle cache. Plus elle dévoile, plus elle voile. La denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. Penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses, elles cachent des choses importantes.
Alors ça, je voudrais bien que vous nous apportiez un commentaire, aussi bien Victor Collard que Daniel Adjerad, sur ce qui vient d'être dit. Évidemment, il faut le resituer dans son temps, c'était avant les réseaux sociaux, mais tout de même.
Oui,
Victor Collard.
Sur la télévision, qui était donc cet ouvrage de... 96 que Bourdieu fait paraître, qui a été un peu un pavé dans la mare. Alors c'était très court, mais c'était très, très mal reçu par un certain nombre de personnes. C'était un ouvrage dans lequel Bourdieu, donc, alors pour le coup, il n'avait pas fait d'enquête empirique, ce qui lui a été reproché. Mais c'était un ouvrage dans lequel il essayait de montrer, notamment aux journalistes, que la télévision, sous couvert, et les médias en général, mais surtout la télévision, sous couvert de donner à voir vraiment la société, de laisser s'exprimer tous les invités de manière égalitaire, etc., en fait, reproduisait un certain nombre de biais. Et donc la télévision cache, c'était un peu l'inverse, bien sûr, il le disait avec provocation, de sa fonction. Normalement, la télévision doit montrer. Mais finalement, elle cache avec cette perversité peut-être particulière ou cette hypocrisie particulière et cette naïveté qu'elle a l'impression particulière de montrer. Or, il y a tout un tas de biais, ce qu'il a bien montré. Et je me souviens d'une émission fameuse avec Daniel Schneiderman, et un certain nombre, Guillaume Durand, Jean-Marie Cavada et Pascal Clark, où ça s'était très mal passé. Il avait essayé de venir à la télévision, critiquer la télévision, et ça s'était
pas passé.
C'est pas passé, voilà.
Eh ben oui, Daniel Adjerad.
Alors moi, il y a une catégorie que je pense utile ici, que j'aime beaucoup chez Bourdieu, c'est la catégorie d'armes symboliques. Essayer d'analyser en quoi, par exemple, les images qu'on nous envoie peuvent être comme des armes symboliques face auxquelles on peut être désarmé, et essayer de montrer comment elles fonctionnent. Et effectivement, comme tu dis, aller à la télévision pour essayer de montrer comment fonctionnent les armes télémotiques, les armes symboliques de la télévision, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose que Bourdieu aime bien faire dans sa leçon d'introduction quand il a été au Collège de France. Il a essayé de faire une leçon sur la leçon, c'est-à-dire j'essaye de désamorcer, d'expliquer ce que je fais tout en le faisant. Alors moi, ça me fait rire parce que je travaille sur le rap aussi, et le rappeur Kendrick Lamar, donc un des plus connus en ce moment, a fait le Super Bowl. Et dans le Super Bowl, il a essayé de faire une performance où il joue le jeu du Super Bowl sans jouer le jeu du Super Bowl. Et il y a beaucoup de commentateurs qui essayent de dire, il essaye de désamorcer les règles et de montrer comment fonctionne le Super Bowl. Donc, cette catégorie, elle me paraît intéressante aujourd'hui, de dire que l'espace sociologique, l'espace social, voilà, c'est un lieu où on peut subir des attaques, il faut se défendre, il faut donner des armes. C'est ça qu'il essayait de faire avec sa collection aux gens. Et il a une formule que j'aime bien, il dit le sociologue, c'est un professeur de judo symbolique. Il s'appuie sur la force de son adversaire et puis essaie de retourner ses armes contre lui. Je pense qu'il a fait ça aussi avec
un bon prof de judo, parce qu'à un moment donné, il y a un étudiant qui, je crois, avait suivi au moment où il était maître de conférence à Lille, et qui disait qu'il l'avait apprécié parce qu'il a des formes, il parle de Bourdieu évidemment, il a des formes de pensée, il veut connaître toutes les formes de pensée.
Oui, c'était assez joli, effectivement. Victor, c'est l'un de ses tout premiers postes de sociologie, où il est maître de conférence à Lille. Et les témoignages, d'ailleurs, sur l'enseignant qu'il a été à l'époque sont assez divers, mais beaucoup sont très impressionnés par l'originalité de ce professeur. Ils disent que, voilà, 2 heures d'amphithéâtre, nous, on aimerait bien que les étudiants aient pas envie de partir. Vraiment, il y a beaucoup de témoignages où ils disent ça. On se levait presque à regret, effectivement, et il avait sans doute cette forme d'enseignement. Alors, certains disent c'est pas un prof. Il y a d'autres témoignages où ils disent, mais c'est pas un prof, il fait des phrases trop compliquées.
Au sens scolaire du terme, peut-être.
Oui, voilà, il fait des phrases trop compliquées, et puis sans doute que c'était plus un chercheur qu'un enseignant, en tout cas pour certains. Mais pour d'autres, c'est tout à fait fascinant. J'ai retrouvé dans des archives des témoignages d'étudiants qui sont vraiment... Parce qu'il leur avait demandé, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement? C'était sa pédagogie rationnelle, d'essayer d'avoir des retours un peu sur son enseignement. Et ils étaient vraiment très, 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 très impressionnés.
Mais encore aujourd'hui, il a des disciples, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs, des disciples?
Oui, oui.
Oui. Mais dans le monde entier, il continue à être lu.
Ah oui, alors c'est un...
Et étudié.
Tout à fait. D'ailleurs, il partage avec Émile Durkheim, il y a une espèce de jeu de citations, de nombre de citations. Il est souvent premier, parfois Durkheim le dépasse. Bon, ils se tirent la bourre entre eux à quelques décennies de distance, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fondé une école. Tu parlais, Daniel, de sa maison d'édition. C'est quelqu'un qui a réussi à se reproduire en sociologie. Il y a un tableau dans le livre où je montre tous les travaux de thèse qu'il a dirigés. Il y en a plusieurs dizaines, c'est tout à fait impressionnant.
Vous avez bossé hein, pour ce livre.
Bah oui, il y avait beaucoup de matériaux d'archives disponibles. Il fallait les exploiter. Et c'est vrai qu'on voit qu'en sociologie, il s'est reproduit, donc il a tout un tas de disciples, des chercheuses et des chercheurs qu'on peut citer, Gisèle Sapiro par exemple, tout un tas d'autres, Franck Poupeau, des gens qui ont fait des thèses avec lui. Et par ailleurs, il a fondé une école, il est extrêmement cité, extrêmement traduit. Gisèle Sapiro travaille notamment sur ses traductions. Bon, c'est tout à fait impressionnant, il n'y a pas une langue où il ne soit pas traduit.
On n'a plus beaucoup de temps, mais s'il n'y avait qu'un livre à lire de lui, pour celui qui n'en aurait jamais ouvert un, lequel de Bourdieu, pour vous, Daniel Adjerad ?
Moi, je conseillerais d'ouvrir les livres qui sont des transcriptions de ses cours, qui ont été publiés au Seuil. Je pense que c'est une bonne entrée en la matière.
Et vous, Victor Collat ?
Pour ma part, je suis tout à fait d'accord. Les cours au Collège de France, c'est vraiment formidable. Ça permet aussi de contrer un peu le style de Bourdieu qui est parfois difficile. Là, c'est une forme plus oralisée. Et sinon, moi, je conseillerais Question de sociologie, 1980, plein de petits extraits d'entretiens qu'il a passés. C'est aussi très, très parlant.
On va lire ça en pensant à vous. Merci beaucoup, jeunes messieurs. Daniel Adjerad, La question de l'économie chez Pierre Bourdieu, une enquête philosophique. C'est aux presses universitaires du Septentrion. Pierre Bourdieu, jeunesse d'un sociologue. C'est publié chez CNRS Éditions. Merci à vous, Victor Collard.